Check this out.
Goûtez au scandale avec les parfums Jean-Paul Gaultier et laissez-vous emporter dans les coulisses des plus grandes affaires People. Que le scandale commence.
Madame Figaro.
On la connaît d'abord pour ça. Où ça? Au début des années 2000, la plupart d'entre nous l'ont vu se déhancher dans des clips diffusés le week-end sur MTV avec ses jeans taille basse, ses grosses ceintures en cuir et un ventre souvent découvert. 20 ans plus tard, Shakira a ressuscité médiatiquement, mais pour d'autres raisons que sa musique. Son mariage avec le footballeur Gérard Piqué a explosé en vol sur fond de confiture, d'épouvantail et de Twingo. Tous les tabloïds espagnols ont chroniqué leur cauchemar passionnel, Shakira a retrouvé un peu de sa superbe et on s'est demandé pourquoi elle avait disparu de nos radars si longtemps. Que s'est-il passé entre ce moment où on voulait les mêmes cheveux et la même danse du ventre et aujourd'hui? En quoi sa rupture l'a fait renaître de ses cendres au moment où s'y attendait le moins? Je suis Marion Galli-Ramouneau, bienvenue dans Scandale.
They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while.
I have no idea what you're talking about.
More accusers of Epstein have come forward since the weekend.
So many people around Britney are controlling her money.
Did you make Kate cry?
No.
Les rumeurs se sont confirmées. La relation entre Shakira et Gérard Piqué a pris fin après plus d'une décennie de vie commune.
Shakira est la star du football. Gérard Piqué se sont séparés le 4 juin. La chanteuse et son petit ami de longue date ont annoncé leur rupture après 11 ans de vie commune.
On est le 4 juin 2022. Shakira et Gérard Piqué viennent donc d'annoncer leur séparation. Dans un court communiqué officiel, ils demandent avant tout le respect de leur intimité. Et ça aurait pu en rester là. Honnêtement, ça nous aurait suffi. On aurait pu, je crois, digérer cette information assez rapidement, comme la dernière déclaration d'amour des Beckham ou la 12e chirurgie de Megan Fox. Sauf que ça a pris une tournure un peu démentielle.
Shakira a surpris Piqué avec une autre femme et ils vont se séparer.
Et le fait que ce soit une histoire d'infidélité, eh bien, c'est tout de suite devenu plus croustillant. 4 mois après l'annonce de leur séparation, Shakira révèle dans une interview au Elle américain ne pas s'en remettre. Elle dit, je cite, « Je traverse les heures les plus sombres de ma vie ». Et à partir de là, elle va ouvrir la boîte du désespoir d'abord, puis celle de la vengeance. Ça commence par une chanson, « Monotonia », qu'elle fait avec le chanteur portoricain Ozuna et qui sort en octobre de la même année. En français, ça donne, mais enchanté, ce n'est pas ta faute ni la mienne, c'était la faute de la monotonie. Je n'ai rien dit, mais ça m'a fait mal. Je savais que ça arriverait. Soudain, tu n'étais plus le même, tu m'as quitté par narcissisme. Dans la vidéo, Shakira a les yeux pleins de larmes, se prend un tir de bazooka en pleine poitrine et finit par ramper sur le sol pour ramasser son cœur ensanglanté. Et donc ça, ça donne le ton. Mais c'est en janvier, lorsqu'elle enregistre son titre Music Session 53 avec le producteur argentin Bizarrap, que Shakira commence à envoyer du très lourd. Aujourd'hui, tout le monde connaît sans doute ce morceau. Mais surtout ses paroles exutoires. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo. Tu as échangé une Rolex contre une Casio. Tu fais beaucoup de muscu, mais fais aussi travailler un peu ton cerveau. C'est là donc pour la première fois que Shakira parle d'une autre femme et confirme ainsi les infidélités de Gérard Piqué avec Clara Chiamarti, une étudiante de 22 ans, le sosie de Shakira avec 20 ans de moins en gros. Et ça, c'est pour les paroles qui ont fait le tour des médias. Mais il y a aussi celle-là. Tu m'as laissé ta mère en guise de voisine, avec les journalistes à ma porte et des dettes aux impôts. Tu pensais me blesser, mais tu m'as rendue plus forte. Tu sais, les femmes ne pleurent plus, les femmes payent les factures.
Je m'appelle Jax, je suis créatrice de contenu à plein temps. Je suis sur TikTok, Instagram et Facebook. Mon pseudo, c'est Jax Chisme Talk. Vous le savez peut-être pas, mais chisme en espagnol, ça veut dire gossip. Un jour, ma copine a dit genre, oh, Shakira vient de sortir une nouvelle chanson avec Bizarrap. Ça s'appelle Music Station 53. Et elle me dit, il y a plein de gossip dedans. À ce moment-là, je suivais pas trop la vie de Shakira. Quand elle s'est mariée, qu'elle a eu des enfants, je la suivais pas personnellement. J'écoutais juste sa musique. Et là, on s'est dit, il faut qu'on sache de quoi parle la musique. Ce qu'il se passe, car tout le monde va vouloir le savoir. On a commencé à regarder la vidéo et on s'est dit, wow, on tient vraiment quelque chose là. Je me disais, ok, je vais faire la vidéo. J'ai fait la vidéo. Et je pense que la première vidéo a fait 1,7 million de vues. Et puis je me suis dit, wow, il faut que j'en sache plus. Et les gens, ils continuent à me demander, et à propos de ça, et ça. Donc je continuais de répondre, de faire des vidéos à ce sujet. Et puis c'est devenu un tunnel sans fin, inarrêtable.
En fait, ce morceau de Shakira, rapidement disséqué par tous les youtubeurs et tiktokers dans le genre de Jax, est devenu un hit. Et presque un hymne en réalité. Robin Vincent est DJ, fondateur du média Jetlag et organisateur de soirées de musique latine.
Je pense que c'est la première fois que tu as aussi une telle explosion d'une revenge songs et autant de reprises sur les réseaux sociaux, de personnes qui vont donner leur avis. Tu vas en avoir qui vont trouver ça extraordinaire, d'autres qui vont trouver ça ridicule, d'autres qui vont mettre en avant le manque de sororité aussi du morceau, c'est-à-dire une femme qui critique une femme. Donc en fait, il y a eu 10 000 réactions et forcément, ça a permis d'amplifier le phénomène musical derrière. On a senti très rapidement en soirée que les gens voulaient écouter ce morceau parce que les gens voulaient... Il y a toujours un phénomène où tu veux... t'as envie en soirée, en tout cas dans nos soirées, on se rend compte de ça, t'as envie de vivre un moment d'actualité. Et on s'est vite rendu compte qu'en effet, il y avait 2-3 passages sur le morceau que le public allait crier.
Le phénomène, il est aussi grandement amplifié par Gérard Piqué. Parce qu'en fait, il ne s'est ni excusé ni caché. Il a même mis de l'huile sur le feu en décidant de rentrer dans le jeu de Shakira pour le meilleur et pour le pire. Quelques semaines après la sortie du morceau, il débarque dans un live sur la plateforme Twitch avec, au poignet, une montre Casio.
Casio nous a donné des montres et on a un accord avec Casio. La Kings League a conclu un accord avec Casio.
Tu plaisantes ?
Bravo ! Casio, Casio.
Hey, c'est une plaisanterie, non ?
C'est pas sérieux.
C'est une blague ?
Ah non, je vous le dis sérieusement. Tiens, en voilà une. Regarde, c'est une Casio, tu vois ? Tiens, pour Ivan.
Pour moi ? Pourquoi ?
Pour toi, parce qu'on en a pour tout le monde. Prenez-en !
Ses fans adorent. D'autant que 2 jours plus tard, il en remet une couche en arrivant à son bureau au volant d'une Twingo blanche. Sourire narquois aux lèvres. Et c'est là que leur conflit personnel devient une guerre marketing de haut vol, dans laquelle même les marques impliquées répondent sur les réseaux sociaux. Dans un tweet des plus délicats, la marque de montre Casio déclare « Shakira, nous ne sommes peut-être pas une Rolex, mais il est clair que nos clients nous sont fidèles. » De son côté, le constructeur Renault apporte, lui, son soutien à Shakira. Sur le Twitter de Renault France, on peut lire « Nous te soutiendrons toujours, Shakira, n'importe quand, n'importe où, en référence à son tube Whenever, Wherever. Après ça, c'est l'autoroute pour les tabloïds espagnols, assez féroces, soit dit en passant, qui n'ont eu qu'à souffler sur le brasier. En décembre, 6 mois après leur séparation, la chaîne de télévision Telecinco dévoile que c'est Shakira elle-même qui aurait découvert les infidélités de Gérard Piqué grâce à un paparazzi et une sombre histoire de confiture de fraises. Jax m'a raconté tout ça.
Jordi Martin, qui est un paparazzi, est aussi un journaliste. Il travaille pour El Gordo La Flaca, qui est une très grosse émission espagnole. Apparemment, Jordi Martin a suivi Gérard Piqué et l'a surpris en train de tromper Shakira. Il dit qu'il avait envoyé des photos à Shakira, mais elle le savait déjà. Elle avait déjà un soupçon. Elle n'en était pas sûre à 100%. Elle a dit dans une interview qu'un jour, ou plusieurs fois, elle est partie avec ses enfants. Et quand elle est revenue... Ah, faut savoir, il y avait des confitures ou des gelées très chères qu'elle avait dans son frigo. En fait, le frigo était divisé en deux parties, entre elle et lui. Car Gérard Piqué est footballeur. Il doit suivre un régime spécifique, donc sa nourriture était d'un côté, et celle de Shakira et des enfants était de l'autre côté. Et les enfants n'étaient pas là, donc ils n'ont pas pu manger les confitures. Elle a dit « Je sais que lui non plus n'en mange pas, parce qu'il a un régime très strict et qu'il n'en mangerait jamais. » Et ses confitures ont commencé à disparaître. Elles étaient à moitié mangées. Et elle a dit « Je savais qu'il avait invité quelqu'un chez moi. »
Alors elle aurait engagé un détective privé et aurait fini par percer le mystère. C'est cette Clara Chia qui l'a mangé, ses toasts à la confiture. Bon, depuis, Shakira a démenti cette théorie. Enfin, elle a juste dit « ce n'est pas vrai » au Times, faisant mine de ne pas avoir entendu parler de tout ça. La question que vous vous posez peut-être, c'est d'où vient cette Clara Chia ? C'est en tout cas la question que je me suis posée et à laquelle Jax a évidemment répondu.
L'histoire officielle, c'est que Clara Chia était stagiaire dans l'entreprise de Gérard Piqué qui s'appelle Cosmos. Et que c'est là que leur flirt a commencé. Mais Jordi Martin a dit « En fait, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Il l'a rencontrée dans une boîte de nuit et elle y travaillait peut-être, ou elle y était à un moment donné. Il l'a rencontrée et ils ont commencé à se fréquenter. Mais pour dissimuler le fait qu'il la voyait à côté, il l'a fait venir dans l'entreprise en tant que stagiaire ou responsable des relations publiques. Comme ça, il pouvait passer du temps avec elle. Et c'était pas grave, parce que bon, ok, ils travaillaient ensemble. Et apparemment, Shakira avait rencontré Clara Chia plusieurs fois parce qu'elle venait lui rendre visite à Cosmos et il lui disait « Ouais, elle travaille ici. »
Quelques jours après le coup de la Twingo, Gérard Piqué publie un selfie de lui et sa nouvelle petite amie, Clara, donc, sur Instagram. Évidemment, des milliers de commentaires fleurissent sous la photo, enragés pour la plupart. Une semaine plus tard, la jeune Clara, manifestement paraudée à l'exercice, est admise dans une clinique de Barcelone à cause de crises d'angoisse incontrôlables.
Il semble que les blagues et les rires provoqués par la Session 53 de Shakira et Bizarrap aient eu des conséquences très concrètes sur la santé de Clara Chia. Des médias espagnols affirment que la jeune femme est hospitalisée.
Est-ce qu'elle a eu peur de Shakira et de ses fans ? Sans doute. En même temps, Shakira ne lâche rien. Quelques jours après le coup de la Twingo, elle met sur son balcon à Barcelone un épouvantail qui a tous les attributs d'une sorcière, le regard en direction de la maison de sa belle-mère qui est voisine de la sienne. Pourquoi s'en prend-elle comme ça à sa belle-mère de 61 ans ?
Apparemment, la mère de Gérard Piqué avait l'habitude de l'appeler la sorcière ou la vieille peau. Et un jour, elle l'a dit devant leurs enfants, Milan et Sacha. Évidemment, ils se sont dit « Bah comment ça ?» Alors ils ont couru vers leur mère et lui ont dit « Hé, grand-mère, elle t'a traitée de sorcière !» C'est donc quelque chose qui l'a toujours marqué. Alors pour se venger, comme ils habitaient si près, leur maison était juste à côté. Elle a mis une petite sorcière chez elle.
Au printemps 2023, Shakira quitte Barcelone pour s'installer à Miami avec ses deux enfants, dont elle a négocié la garde exclusive. Elle l'annonce à tous ses fans dans un post Instagram en écrivant, non sans ironie, « Merci à vous tous qui avez surfé tant de vagues avec moi à Barcelone, la ville où j'ai appris que l'amitié est sans doute plus longue que l'amour. » Ce qui est marrant, c'est que même si elle a quitté l'Espagne, même si elle a eu des problèmes avec le fisc espagnol, en gros, elle a été accusée de ne pas payer ses impôts en Espagne de 2012 à 2014 et elle a avoué que c'était vrai. Les Espagnols ont toujours été de son côté. Il y a cette vidéo dingue de Gérard Piqué qui est dans une boîte de nuit à Madrid en juillet, quelques mois après tout leur bazar médiatique. Et tout d'un coup, tout le public de la boîte se met à le montrer du doigt en criant à l'unisson « Shakira, Shakira !» Enfin, comme ça. On se croirait dans un stade de foot et lui a l'air hyper gêné. Et cette foule qui soutient soudain Shakira dans une boîte de nuit, elle le fait pas seulement parce que la chanteuse est la victime de toute cette histoire. Elle le fait d'abord parce qu'on est à Madrid et que Gérard Piqué joue à Barcelone, ah oui, il y a un peu de ça, mais aussi parce qu'on parle de Shakira, la reine de la pop latino, la colombienne à la cote de popularité immense et à la communauté ultra fidèle bâtie il y a bien longtemps. Si on remonte aux prémices de son succès, on peut dire que Shakira, qui est son vrai prénom et qui veut dire « pleine de grâce » en arabe, naît en Colombie et commence sa carrière à 7 ans quand son père lui offre une machine à écrire pour composer ses premiers poèmes. C'est aussi à cet âge-là que son père, d'origine libanaise, l'emmène dans un restaurant aux spécialités orientales et qu'en entendant la darbouka, elle commence à danser sur la table. Mario Scodinu est animateur sur Radio Latina depuis 30 ans.
Elle a commencé très très tôt à faire des compositions. Il y a même des vidéos, elle, on la voit à 8 ans, elle danse déjà pratiquement divinement, puisque bah, les origines libanaises, évidemment, c'est très oriental. Et elle est hyper active, et je crois qu'elle a même eu un traitement qu'elle a suivi pendant des années.
Mais son talent n'est pas évident pour tout le monde. Dans le collège de sa ville colombienne, Barranquilla, ses camarades l'appellent certes « belly dancer », parce qu'elle passe son temps à faire de la danse du ventre dans les couloirs, mais ils se moquent d'elle dès qu'elle ouvre la bouche, la comparant à une chèvre. Elle est même exclue de la chorale car son professeur de musique pense que son vibrato est un désastre. C'est pourtant ce même vibrato qui la rendra si célèbre et reconnaissable. Comme souvent dans les familles modestes, c'est sa mère qui croit le plus en elle et qui l'inscrit dès la préadolescence à tous les radio-crochets et concours de chant de la région. Ici, un précieux petit extrait audio déniché sur YouTube. Elle a 11 ans, elle est habillée comme une poupée et bouge comme une vieille dame. Mais elle est quand même assez stupéfiante. Elle sort son premier album à l'âge de 14 ans. Ça ressemble à du Maria Carré en plus mielleux et en version espagnole. Sur la pochette, elle porte une jupe en jean, une demi-queue version palmier et une accumulation de bracelets. Bref, on est en 1991. Sur le moment, l'album n'est remarqué que dans sa région d'origine en Colombie. Mais ce qui est dingue, c'est que, comme il n'a jamais été réédité, il est devenu genre collector aujourd'hui et se négocie à plusieurs milliers de dollars sur Internet. Ensuite, elle est repérée dans une émission genre The Voice Kids par la grande star latino de l'époque, Ricky Martin. On lui confie aussi des rôles dans les telenovelas à la mode, ce qui lui donne de la visibilité. Et puis l'album suivant n'est plus seulement écouté par les gens de son coin, mais par tous les hispanophones. Comme vous pouvez l'imaginer, elle ne s'en contente pas. Son but ultime, conquérir l'Amérique. Et c'est pour ça qu'à 20 ans, comme toute wannabe qui se respecte, elle s'installe en Floride avec sa famille. Et si vous regardez sa première apparition dans l'émission MTV Unplugged, je préfère vous prévenir que vous ne reconnaîtrez pas Shakira. Elle a les cheveux rouges et joue de l'harmonica dans un groupe qui se rapproche plus de la chanson country que de la pop latino. Et on dirait... Alanis Morissette, en fait. Mario Scodinu l'a reçu sur Radio Latina à l'époque. Il se souvient d'un phénomène évident en Amérique latine, mais qui n'était pas encore connu en France.
Ça doit être 97. À l'époque, elle est vraiment brune, elle est toute jeune, elle doit avoir 19-20 ans. Et on a fait une interview avec Roberto, qui est l'animateur de notre émission du matin, le Latino Show, et on ne se rendait pas compte de ce que... Enfin, on savait que c'était quelqu'un de très connu, mais... Après, avec au fil des années, on s'est rendu compte que c'était une véritable star et que déjà, elle avait une posture, elle savait déjà s'adresser. Puis la voix était déjà exceptionnelle.
Shakira se rend quand même vite compte que si elle veut vraiment percer, il faut qu'elle chante en anglais et qu'elle se blondisse les cheveux, accessoirement. C'est avec son album Laundry Service qu'elle revient en 2001, à 24 ans. Sur ce disque, beaucoup plus pop que ses précédents, il y a évidemment ce tube qui l'a fait exploser dans le monde entier et sur lequel vous dansez toujours un peu pompette dans les soirées d'entreprise. Et puis, ce refrain. « Chloé Thibault est journaliste et auteure du livre « Toutes pour la musique », dans lequel elle repense la place des artistes féminines dans l'industrie.
Dans les années 90-2000, on voit quand même éclore des immenses pop stars qui sont toujours aussi célèbres aujourd'hui. Je pense notamment à Britney Spears, évidemment, et puis ensuite à Christina Aguilera. On avait aussi à cette époque-là Beyoncé avec les Destiny's Child, et puis Rihanna qui débarque aussi au début des années 2000. Et en fait, Shakira, elle devient la pop star latine, puisqu'elle est colombienne et d'origine libanaise aussi. Donc en fait, elle fait mine de rien figure d'exception dans le champ des pop stars. Il existe aussi Jennifer Lopez, qui est une figure latina, mais J-Lo, elle est née aux États-Unis, elle vient du Bronx, alors que Shakira, elle est vraiment colombienne. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, elle devient la plus grande pop star latina hors États-Unis à s'imposer de cette manière-là, mais en même temps, pour parvenir au succès, elle joue complètement avec les codes de l'américanisation. Et elle rentre dans le moule de ce qu'on attend d'une pop star féminine. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, en tant que Colombienne, elle avait les sourcils et les cheveux très très noirs. Quand elle chante d'ailleurs au début de sa carrière en Colombie, elle a ce style-là. Et puis ensuite, quand elle perce aux États-Unis, elle se teint les cheveux en blond. Et vraiment, la blondeur à cette époque-là, c'est l'un des signes distinctifs de la pop star.
Là, elle devient vraiment la Shakira qu'on a tous en tête. Cheveux longs, boucles blondes, pieds nus, brassière en cuir et pantalon poussiéreux de Cowgirl. Et elle gagne son premier Grammy Award pour le meilleur album pop latino. Mario Scodinu se souvient de son ascension crescendo.
En fait, elle y allait par étapes. Donc au début, évidemment, la Colombie, ensuite l'Amérique latine, et puis en fait, avec Suerte, Whenever, Where, Wherever, pardon, excuse-moi pour my bad accent, je sais mieux le chanter, elle a conquis le monde. Et ça commence à marcher, évidemment, en France, en Italie, un petit peu partout en Europe, évidemment, en Espagne, qui est un marché naturel. Et après, effectivement, il y a la Tortura, le fameux duet, le clip aussi incandescent avec Alejandro Sanz, qui est une star de la pop espagnole. Et là, l'image, waouh, elle explose.
Et qui n'a pas déjà dansé complètement ivre sur ce morceau ? Mario parle d'incandescence et, en effet, dans le clip de cette chanson issue de l'album Oral Fixation Volume 1, si vous vous souvenez, Shakira, qui a alors 28 ans, est en train de couper des tomates quand le fameux Alejandro arrive par derrière dans une scène assez explicite avant qu'elle lui fasse la danse du ventre allongée par terre, alors que lui la regarde en mangeant une pasta box. Bref, on verrait plus ça aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est ça que Shakira véhicule. L'image d'une femme sexy, très sexy, sexuelle même, qui se déhanche pour des hommes dans tous ses clips ou presque. Une surenchère du très chaud qui devient la marque de fabrique de la chanteuse. Dans un entretien accordé à l'intervieweuse américaine Katie Couric, elle l'assume, même si elle a quand même l'air un peu mal à l'aise avec le fait de l'assumer.
Qu'est-ce qu'il y a de mal à être sexy ?
Quoi ?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à être sexy ? Non, en réalité, je pense que oui, sexy c'est bien tant que ce n'est pas le plat principal. C'est un ingrédient dans un plat déjà très pimenté. Je pense qu'il n'y a rien de mal à ce qu'une femme ait confiance en elle, en sa sensualité, et se sente libre de s'exprimer vraiment de la manière dont elle le désire.
Chloé Thibault explique, elle, que c'est un comportement récurrent de la part des chanteuses de ces années-là.
Ce qui est vraiment important, c'est d'établir le fait que Shakira est une grande musicienne. Elle a une voix atypique, elle chante super bien. Enfin voilà, ses qualités en tant qu'artiste n'ont vraiment pas à être remises en question. Une fois qu'on s'est dit ça, ce qui est sûr, c'est que dans le courant pop des années 2000, elle rentre quand même dans une case qui objectifie et hypersexualise les femmes. Quand on regarde son clip « Whenever, Wherever », évidemment, Bon, bah, elle est en brassière, elle a un pantalon taille basse, elle joue à fond sur les mouvements de danse qui l'ont rendue célèbre, qui sont à la fois emprunts de la danse orientale et de la danse indienne un peu Bollywood. Voilà, ce déhanché qui est vraiment le déhanché Shakira qu'elle a fait rentrer dans la pop culture. Mais qui, après tout, n'a pas forcément besoin d'être hyper sexualisé, parce que ce sont des mouvements de danse, hein, et culturellement, ça existe depuis très longtemps, la danse du ventre, donc c'est aussi quelque chose qui est très beau. Mais en tout cas, elle représente un modèle de femme qui est absolument canon, avec de la poitrine, avec des fesses, mais avec la taille très fine, la taille qu'on souligne.
En 2006, tous les gens en âge de sortir en boîte dansent sur Hips Don't Lie, le duo qu'elle signe avec Wyclef Jean, le rappeur connu pour avoir fait partie des Fugees. C'est aussi là qu'elle se prend sa première accusation de plagiat par un chanteur portoricain du nom de Jerry Rivera. Ils auraient en fait samplé un morceau de l'artiste, et c'est vrai que si on écoute le début de son morceau à lui, la ressemblance est assez dingue. Mais Jerry Rivera s'est rapidement calmé en comprenant qu'en fait, les producteurs de Shakira avaient bien acheté les droits de son morceau au préalable. Personne n'a dit si c'était lié à cette controverse, mais en tout cas, après ça, l'ouragan Shakira va faire une petite pause. Pendant 3-4 ans, la chanteuse, qui en a peut-être aussi un peu marre d'être le prototype de la bimbo latino en brassière, va tenter de s'extraire un peu de tout ça. Elle commence à traîner avec des écrivains comme Gabriel Garcia Marquez, se rapproche des happy few de la politique sud-américaine, son compagnon de l'époque c'est d'ailleurs le fils de l'ancien président argentin Fernando de la Rúa, et puis elle s'implique dans l'humanitaire, devenant notamment ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF. Sur scène, elle se remet à chanter en espagnol, montrant qu'elle est capable d'interpréter les grands textes de son pays. Dans cette veine, lors d'un concert en France, elle reprend « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel, en espagnol puis en français, devant un public complètement attendri. Et puis bon, elle redevient quand même la Shakira Shakira qu'on connaît. Et je sais que vous savez avec quel titre. Ce titre dont le clip a été vu près de 4 milliards de fois depuis sa diffusion en 2010. Ce titre qui est choisi la même année pour être l'hymne de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Le fameux Waka Waka. Dans le clip, on voit plusieurs joueurs de foot sourire face cam ou taper dans un ballon pendant que Shakira enchaîne des mouvements de danse africaine. Une fois de plus, elle est accusée d'avoir plagié un morceau. Il s'agit de cette chanson du groupe camerounais Zangalewa. Mais on le vend comme une adaptation et tout est oublié. Et donc c'est sur le tournage du clip Waka Waka qu'elle rencontre Gérard Piqué. Il est espagnol, défenseur dans l'équipe d'Espagne et officie au FC Barcelone le reste du temps. Il mesure 1m95, 40 cm de plus qu'elle, et il a 23 ans, 10 ans de moins qu'elle. En France, honnêtement, à part si on est fan de foot, on ne le connaît pas. Jax, la TikTokeuse spécialiste du gossip latino, raconte comment ça a commencé.
Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2010. D'après l'histoire, elle tournait le clip de sa chanson Waka Waka, donc elle avait beaucoup de joueurs de football dans son clip. Et ben lui, il était en fait l'un des gars. Et l'histoire raconte qu'elle l'a vu et qu'elle s'est dit « Oh, il est vraiment mignon ». Et quelqu'un de son équipe ou quelqu'un qui les connaissait les a mis en contact. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'envoyer des messages. Et c'était comme... Il s'est pris au jeu. Comme elle ouvrait la Coupe du Monde, elle allait également la clôturer. Alors il a dit « Je vais devoir gagner la Coupe du Monde pour te revoir ». Ils ont donc gagné la Coupe du Monde cette année-là. Et c'est ainsi qu'ils se sont revus.
À l'époque, Shakira est quand même depuis 10 ans avec cet Antonio de la Rua dont j'ai déjà parlé, qui est aussi son manager. Mais elle plaque tout pour Gérard. Il a raconté plus tard sur la chaîne espagnole TV3 comment il a repris contact par SMS après le tournage du clip de Waka Waka, comme si de rien n'était, alors qu'elle était déjà en Afrique du Sud pour l'ouverture de la compétition. Il lui a écrit ce message assez déplorable qui va tous nous réconcilier avec notre talent douteux pour la séduction. Est-ce qu'il fait beau en Afrique du Sud ? Bon, il se trouve qu'elle lui répond pas juste « il fait chaud ou froid », mais avec tout un tas de détails météorologiques. Et pour lui, c'est la preuve que la porte est ouverte.
Eh bien, beaucoup de gens aiment vraiment leur relation. Elle avait dit dans de nombreuses interviews qu'elle avait cessé de croire en l'amour. Et je pense qu'elle a même dit à un moment donné qu'elle avait perdu la foi. Et puis, quand elle l'a rencontré et que leur amour a commencé à s'épanouir, elle a fini par avoir l'impression de croire à nouveau en l'amour. Et elle disait toujours tellement de belles choses sur lui. Et je me souviens qu'une fois, il est même venu à l'un de ses concerts en 2011. Ils se prenaient dans les bras, ils s'embrassaient. De l'extérieur, ils avaient l'air d'avoir la relation parfaite. Tout le monde disait « Wow !» parce que Shakira était connue, je dirais, pour être une de ces femmes. C'est comme si elle ne pouvait pas être domptée. Il faut vraiment une personne spécifique pour vraiment la canaliser. J'ai l'impression que tout le monde était très investi dans leur relation parce qu'elle avait l'air si heureuse, parce qu'il avait l'air si heureux. Et lui, c'était un footballeur très célèbre à l'époque. Elle, elle est donc riche et célèbre, et lui, il est riche et célèbre. Alors les gens se disaient « Wow, l'amour existe vraiment !» Et je pense que c'est de cette manière qu'ils ont été vus pendant très longtemps.
On ne compte plus les baisers qu'ils se sont donnés en public. Et au vu des photos, pas de doute, c'est vraiment des baisers d'amour sincère, comme on dit dans les contes de fées. Autre preuve de leur amour, à partir du moment où ils sont ensemble, Piqué dédie toujours ses buts à Shakira. Croisant les bras sur sa poitrine et deux doigts tendus sur chaque main, l'index et le majeur. Ce chiffre 2 symbolisant leur anniversaire commun, le 2 février. Oui, ils sont nés le même jour. C'est pas mignon, ça ? Après l'officialisation de leur relation en 2011, via une photo d'eux publiée sur Twitter par la chanteuse, Shakira s'installe à Barcelone. Ils font leur première apparition sur le tapis rouge pour la cérémonie du Ballon d'Or en 2012. Lui dans un costume noir pas affreux pour un footballeur, elle dans une robe sirène rouge écarlate. 2 ans plus tard, pas des plus calmes, elle enchaînant les concerts et lui les matchs, ils accueillent leur premier enfant, Milan, en janvier 2013. À l'époque, elle dit ça à la presse espagnole. C'est difficile à comprendre, mais pendant ma grossesse, je travaillais 14 heures par jour. Je me souviens avoir été sur scène avec mon gros ventre, faire ces mouvements que je fais. Je suppose que j'avais l'air ridicule. Elle raconte aussi son accouchement, tout sauf naturel. J'ai programmé la césarienne parce que j'avais un contrat avec The Voice. J'étais maquillée en accouchant. J'ai accouché et j'ai emmené mon nouveau-né avec moi partout ensuite, comme ces mères indigènes qui portent leurs enfants sur leur dos. Un second fils, Sacha, arrive 2 ans plus tard, en janvier 2015. En revanche, pas de mariage. Dans une interview du couple accordée à l'émission américaine 60 Minutes, elle explique pourquoi.
Mais vous n'êtes pas officiellement mariée.
Pour être honnête avec vous, le mariage me fait flipper. Je ne veux pas qu'il me considère comme sa femme. Je préfère qu'il me voie comme sa copine, c'est ça. Son amoureuse, sa petite amie. Un peu comme le fruit défendu. Je veux qu'il reste sur ses gardes, qu'il pense que tout peut changer, que tout dépend de lui.
Et au vu de ce qui s'est passé ensuite, c'est légèrement prophétique, non ? En 2017, comme une énième preuve d'amour, Shakira sort ce titre, mais enamorée, je suis amoureuse en français, dans le clip duquel Gérard Piqué apparaît, les yeux dégoulinants de sensualité. Et puis la passion s'éteint lentement. Peut-être que c'est lié au ralentissement de leurs carrières respectives. Gérard Piqué quitte le football international en 2018 et monte sa société Cosmos Sports, connue notamment pour posséder le football club d'Andorre. On sait aussi que Shakira connaît un épisode de dépression après avoir subi une hémorragie de la corde vocale droite en 2017. Mais peut-être que ça n'a rien à voir. En tout cas, la rupture se produit, méchamment comme on sait, en 2022. Shakira a alors 45 ans, Gérard Piqué 35. Moi, je reconnecte un peu avec elle à ce moment-là. Depuis Waka Waka et ses débuts avec Gérard Piqué, en fait, je m'intéressais un peu moins à elle, à sa musique aussi. Elle était peut-être concurrente de Beyoncé et Rihanna à un moment, mais ces dernières l'ont dépassée depuis. Elles se sont adaptées à la relève mieux qu'elle, ont aussi mieux apprivoisé les réseaux sociaux. Mais quand même, au moment de sa rupture, Shakira a soulevé une vague de soutien. On a eu envie de la soutenir parce qu'à la fois, elle représentait soudain ce cliché de la femme quarantenaire qui se fait balayer par son mari pour une femme plus jeune. Et d'un autre côté, elle transcendait tout ça avec une revenge song qui la rendait ultra puissante.
Il se passe quelque chose en ce moment avec Shakira parce que...
Chloé Thibault.
Elle revient, donc là, elle va sortir un nouvel album. Elle est vraiment enfin, dans l'imaginaire du comeback. Et elle a 47 ans, elle est mère de deux enfants, elle a déménagé à Miami. Enfin voilà, elle va tout gérer d'une main de fer, en solo, avec son cœur brisé. Donc ça nous donne une image, en fait, qui fait du bien au commun des mortels, parce qu'on se dit, bon bah elle aussi, passé 40 ans, elle vit ça, quoi. En fait, le divorce avec le père de tes enfants, et tu dois repartir de zéro, voilà. C'est quelque chose, en fait, qui, pour le public, peut être sympathique, parce que ça permet... aux femmes de s'identifier.
Et en même temps, comme beaucoup de féministes à ce moment-là, Chloé Thibault ne cautionne pas la fameuse revenge song de Shakira, et par extension certains messages que les popstars féminines désirent passer aujourd'hui.
Cette revenge song, pour moi, elle est à la fois féministe dans la démarche et dans le geste de prouver à son ex qu'on n'a pas besoin de lui pour continuer notre vie, et en même temps complètement anti-féministe parce qu'elle rabaisse une autre femme.
Au moment de la sortie de la chanson, c'est vrai que beaucoup ont critiqué Shakira, l'accusant d'objectifier les femmes, en l'occurrence la petite amie de Gérard Piqué, en la comparant à une Twingo et une Casio. On l'a accusée aussi d'en profiter pour montrer toute l'étendue de sa puissance, de sa réussite et, par extension, son argent.
C'est le reproche que j'adresse à des artistes comme Beyoncé ou Shakira, c'est qu'elles défendent un féminisme, certes, mais un féminisme qui est très capitaliste. Là, on le retrouve dans la revenge song de Shakira, quand elle dit « maintenant, les femmes payent les factures ». Beyoncé, elle utilise beaucoup ça, quoi. Enfin, les diamants, regarde tout ça, je l'ai acheté moi-même. Et je comprends, parce qu'en plus, quand on connaît leur biographie et qu'on sait d'où elle vient, c'est évidemment normal qu'elle soit fière de gagner de l'argent. Mais en tout cas, je trouve ça dommage que leur féminisme passe en grande partie par la revendication de leur fortune.
C'est un peu l'idée de ce féminisme par la puissance et l'argent qu'on a moins l'habitude de voir dans les manifs. Et donc il y a ce féminisme-là, capitaliste tel que le décrit Chloé Thibault, mélangé à des sorties un peu étonnantes, comme la fois où Shakira a dit que ses deux filles ont détesté le film Barbie, qu'elle-même a trouvé très émasculant. Son propos à elle, c'est de donner du pouvoir aux femmes sans priver les hommes de leur propre pouvoir, à savoir, tel qu'elle le dit, de protéger les femmes et de subvenir à leurs besoins. Un féminisme qu'on peut considérer comme un peu paradoxal, qui utilise le pouvoir féminin quand ça l'arrange, et quand même assez en décalage avec son temps.
Le nouvel album de Shakira va s'appeler « Les femmes ne pleurent plus ». En espagnol. Et d'ailleurs, en fait, c'est un extrait de la revenge song. Hein. Elle dit « Les femmes ne pleurent plus, les femmes payent les factures ». Et moi, j'aime pas tellement ce titre d'album. Parce que je préférerais, en 2024, qu'on me dise « Les hommes pleurent aussi » plutôt que « Les femmes ne pleurent plus ». Parce qu'encore une fois, on est dans un cliché anti-féministe de « bah voilà, la sensibilité des femmes est une faiblesse ». Moi, c'est pas forcément ce que j'attends qu'on chante. J'attends qu'on me dise « Je pleure et je suis forte ».
Je suis Marion Galli-Ramouno et vous venez d'écouter le quatrième épisode de cette troisième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Estelle Njanjo a été chargée d'enquête. Adèle Lécharny a apporté son aide à la production. À la prise de son, Erwan Jamé. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont été composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et vous abonner. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. Dans deux semaines, on revient avec la suite de notre série sur les scandales qui ont entaché le monde du sport. On vous raconte l'histoire de Maria Sharapova, la plus glamour des championnes de tennis, accusée de dopage en 2016.
Check this out.
Goûtez au scandale avec les parfums Jean-Paul Gaultier et laissez-vous emporter dans les coulisses des plus grandes affaires people. Que le scandale commence.